Content de me voir. Moi, je suis ravi de vous retrouver. À l'instar du temple de Salomon, établissons le postulat suivant. Imaginons que l'humain soit une construction à trois niveaux et donnons à la dite construction la forme d'une pyramide. Appelons le rez-de-chaussée corps, C-O-R-P-S, l'étage intermédiaire âme, A accent circonflexe M-E, et le troisième et dernier étage, esprit. Nous obtenons ainsi une entité qui lue de bas en haut, donne le corps, l'âme et l'esprit. Tâchons de garder en mémoire cette structure fondamentale, non pas comme une valeur absolue, mais comme un dessin, un schéma qui va nous aider à mieux visualiser, peut-être à mieux comprendre. Une fois ce principe admis, ayons à l'idée que c'est sur ce schéma-là que le Christ a accepté de s'incarner. Ainsi, si nous disons qu'il s'est fait homme, nous disons qu'il s'est fait corps, qu'il s'est fait âme, humaine et esprit humain. Et nous allons essayer de voir que c'est sur cette idée de triple organisation que le diable a tenté le Fils de Dieu fait homme. Tout en effet s'est passé comme si à chacun des niveaux correspondait une tentation spécifique, une tentation appropriée au niveau concerné. Et nous lisons le récit de la tentation de Jésus dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et au verset 1. Alors, Matthieu 4, Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa et des anges vinrent le servir. Première tentation. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est un homme en état de grande faiblesse qui va subir cette épreuve. Ce n'est en aucun cas quelqu'un de reposé en pleine possession de sa force. Nous avons vu au contraire qu'il s'agit de quelqu'un d'épuisé, après un jeûne interminable. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. Bref, tel le lion rugissant qui attend des signes de faiblesse de sa future victime, c'est précisément alors que le diable intervient. Et vous notez qu'il établit sa stratégie d'approche à partir d'une nécessité vitale. Il eut faim. Le diable attaque d'abord la base de la pyramide. Ici, l'épreuve va consister à proposer de satisfaire un désir, un besoin de la chair. Et nous voyons que c'est la proie elle-même qui fournit le support de la première tentation. Ainsi, le corps, la chair, constituerait donc la première zone de fragilité, de vulnérabilité. Ce qui nous permet de dire que la base de notre hypothétique pyramide est le siège des tentations les plus primaires, les plus archaïques. Soulignons deux points avant de passer à la deuxième épreuve. La première épreuve, comme les suivantes, est verbalisée. Elle passe par l'oralité. C'est une parole orale. Alors qu'en face, la réponse, elle, vient de l'écrit. Il est écrit. En face, la parole écrite de Dieu fait loi. Deuxième point, le diable parle en conjuguant au présent. C'est maintenant, tout de suite, ordonne, dit-il. Le tentateur, dès lors qu'il s'agit de jongler avec le désir, est le prince de la consommation immédiate. Petit b, si le diable conjugue au présent, Jésus, lui, cite et conjugue au futur. L'homme ne vivra pas. Il est le prince de l'espérance et d'emblée rappelle que la parole écrite de Dieu s'inscrit dans l'éternité. Deuxième tentation. Le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». Car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Faudrait être un théologien docte et très averti pour pouvoir donner de l'âme une définition convenable, acceptable. Et surtout définitive. Nous ne dépasserons pas le stade de la métaphore en disant qu'elle se comporte un peu, cette âme, comme un réceptacle, un peu comme si elle avait été conçue pour être remplie. Et on peut considérer que ce remplissage peut s'effectuer de deux manières, grand A si vous voulez. En nous créant, Dieu nous a donné la pensée, et l'intelligence. Par elle et par le biais du raisonnement conscient, nous avons ainsi accès à la connaissance et au savoir. Précisons qu'il s'agit ici de la connaissance et du savoir profane. Entendez la maîtrise de l'histoire, des sciences, des arts, de la philosophie et de toutes sortes de concepts. Grand B, mais Dieu a aussi fait de cette âme un lieu capable d'être rendu saint. Considérons donc cet étage intermédiaire comme l'étage du sacré, en opposition à la part profane que nous venons de souligner. Dans la deuxième tentation du Christ, c'est-à-dire à l'étage, dans la deuxième tentation du Christ, c'est à cet étage intermédiaire que le diable va s'intéresser. Souvenez-vous, nous avions souligné dans la première tentation que le support était le corps et ses besoins, la chair et ses désirs, l'animal et ses exigences. Ici, nous passons à l'étage du dessus. Le texte nous fournit trois mots-clés chargés de symbolique. sainte, eau, H-O-U-T, et temple. C'est donc bien l'étage intermédiaire, l'étage du sacré. Le diable dit « jette-toi en bas ». On ne se jette pas en bas depuis le rez-de-chaussée. Lorsqu'il s'agit de s'en prendre à l'étage de la connaissance et de la raison, comme il est très intelligent, le diable va employer lui aussi le « il est écrit ». Et puis il va conjuguer lui aussi au futur. Il donnera à ses gens, à ses anges, ils te porteront. Ici, se jeter en bas consisterait à renoncer au lieu sacré. Céder à la tentation ici eût consisté à vendre son âme au diable. Et notons, avant de passer à la troisième épreuve, que dans sa réponse, Christ, s'adressant frontalement à l'adversaire, emploie le possessif « ton ». Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. C'est une forme de rappel à l'ordre. Jésus, s'adressant au diable, en réalité lui dit « non seulement Dieu est ton supérieur, mais tu n'es rien d'autre que son sujet. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur. » Il est écrit « tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu ». Troisième tentation, le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui monta les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant ton Dieu que tu te prosterneras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et des anges vinrent le servir. » Ici encore, l'ordre des tentations semble organisé en fonction de notre très schématique pyramide. La première épreuve se situait au rez-de-chaussée. Il s'agissait de transformer des pierres, des éléments du sol. La deuxième plaçait Christ en haut du temple. La tentation consistait alors à renoncer au sacré. La troisième épreuve, plus élevée encore, nous situe au dernier étage. Et elle concerne ici le très sacré, le très sacré. Cette expression nous est fournie par la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, chapitre 6 et au verset 8. Nous lisons, et c'est du temple de Salomon qu'on parle, « L'entrée des pièces de l'étage intermédiaire était sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage intermédiaire par un escalier et de l'étage intermédiaire au troisième étage. » Verset 17, « Salomon bâtit ainsi l'intérieur pour en faire le secret. » Deux points, le très sacré. Le secret, le très sacré. Et toujours, dans ce même livre, premier livre des Rois, chapitre 8 et verset 10, nous lisons « Au moment où les prêtres sortaient du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. » Le troisième étage, c'est le lieu du secret. C'est l'étage du très sacré, où se tient l'Esprit Saint, la gloire de Dieu. Faisons ici trois observations. Première observation. Dans cette tentation, le diable parle comme un possédant s'adressant à un interlocuteur a priori démuni. On peut traduire son propos en disant « Tout cela m'appartient, c'est moi qui suis le maître du monde et de sa gloire, et je suis le seul habilité à pouvoir te l'offrir. Je, verset 9, je te donnerai tout cela. » Notez qu'aussitôt cette proposition faite, vient l'énoncé du prix à payer. Je te donnerai si. Je te donnerai si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Deuxième observation. Tel que cela nous est présenté ici, à vues humaines, rien ne paraît pouvoir être plus haut que le pouvoir et la gloire du monde. Troisième observation, nous lisons « Si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi ». Le « moi » du diable est ici proposé comme la pierre sommitale, la pierre la plus haute de la pyramide. Dit autrement, Satan essaie de s'auto-proclamer seul sommet. Aussitôt, Jésus rectifie en rappelant qu'il n'existe qu'un seul et vrai sommet. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Dieu est le seul sommet. Ces trois tentations sont présentées dans un ordre qui paraît ascendant. La première essaie de faire pécher la chair, la deuxième de faire renier le lieu sacré, et la troisième essaie de vider le secret, de son contenu très sacré. Et là, il s'agit de faire pécher, d'essayer de faire pécher contre le Saint-Esprit. Or, s'il est vrai que ce premier mouvement nous paraît ascendant, mais le deuxième, en revanche, ressemble furieusement à une chute. Jette-toi, tombe, prosterne-toi. Notons par ailleurs que, quelle que soit l'épreuve considérée, le diable joue toujours sur l'ego. Olivier tout à l'heure a parlé du « tu ». Eh bien, le diable emploie systématiquement la deuxième personne du singulier. Et en face, Jésus répond systématiquement par la troisième du singulier. Il est écrit. Autre point important. Le texte biblique précise que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Après quoi, très curieusement, ce même Saint-Esprit paraît se retirer. Il n'est plus jamais mentionné pendant la durée des épreuves. Et alors là, on reste perplexe devant l'incroyable passivité du Christ. Que ce soit en haut du temple, sur une très haute montagne, il se laisse amener, il se laisse conduire, il se laisse trimballer sans présenter la moindre résistance. Peut-être parce qu'il est épuisé par un jeûne interminable et qu'il n'en avait plus la force. En tout cas, prenons garde à nos épisodes en creux. Si nous restons longtemps sans prendre la nourriture spirituelle, gageons que l'adversaire ne tardera pas à se présenter en prince du tout de suite et de la consommation immédiate du maintenant. Ainsi, il est indispensable pour nous d'être sous la perfusion permanente de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le perpétuel tsunami d'images noie en quelques clics toute velléité de résistance. Et je pense en particulier aux jeunes. Prenons la bonne habitude de lire au quotidien tous les tweets, tous les textos, tous les mails que Dieu nous envoie dans sa sainte parole. C'est le meilleur moyen de résister efficacement à l'adversaire en lui disant « Il est écrit ». Quelques courts instants pour souligner trois derniers points avant de terminer. Premier point. Restons vigilants sur la notion de pouvoir. Le grand ou les grands, mais aussi les petits. Depuis la nuit des temps, Le pouvoir fascine les hommes, et le diable le sait. Et il peut souvent nous le rendre accessible, mais à ses conditions, à lui. Retenons bien et méditons ceci. Il n'est pas d'accès à la gloire ou au pouvoir humain qui ne passe au préalable, sous une forme ou une autre, de prosternation. Deuxième point. Dans son enseignement, le Seigneur semble lui-même souligner une sorte de hiérarchie des tentations. Et il insiste sur le fait que seul le péché au niveau du troisième étage restera impardonnable. Évangile de Marc, chapitre 3, verset 28, un verset étonnant. Tout sera pardonné au Fils de l'homme. Péché et blasphème autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Troisième et dernier point. Des trois, c'est le plus mystérieux. C'est le plus hermétique. Livre de Job, chapitre 1. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur ? C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. » L'adversaire répondit, « Étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient, à coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Tout ce qui lui appartient est en ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors, l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Le diable est fasciné par ceux qui appartiennent au Seigneur. Le diable est fasciné par les servantes et les serviteurs du Seigneur. Ce sont ceux-là qu'il tente. Nous sommes la priorité de ses convoitises. Ce qui permet d'affirmer, de souligner une vérité subversive, une vérité explosive. Être tenté et l'être jusqu'au troisième étage est la preuve magistrale, la preuve irréfutable que nous sommes au Seigneur et que nous lui appartenons. Il devient dès lors très préoccupant de n'être jamais tenté. On pourrait dire, pour résumer cette idée sous une forme un peu lapidaire, ce qui en réalité est très grave, ce n'est pas d'être tenté, mais au contraire de ne l'être pas. Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est Paul qui parle. Ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Au fond, tout se passe comme si nous étions des pièces sur un jeu d'échecs. Nous devenons, au cours de nos tentations ou de nos épreuves, la matérialisation d'enjeux qui nous dépassent, entre les mains de puissances qui nous dépassent. Et lors même que nous gagnons ou que nous perdons du terrain dans l'espace de nos pauvres petites vies, nous manifestons ou non la suprématie du règne, de la puissance et de la gloire de notre Dieu sur toute autre puissance, principat ou autorité. Nous pouvons en effet vivre nos tentations à notre seul niveau, en nous lamentant sur la nature de nos faiblesses. Mais nous pouvons aussi aborder ces épreuves avec l'assurance d'un petit David courant au-devant de Goliath. Je le sais, je ne suis rien par moi-même, mais il est écrit, les cailloux de Dieu terrassent les géants. Il est temps de conclure. Donnons à notre conclusion un titre qui tient en trois mots. Il est écrit. Il est écrit. Le danger consisterait à croire qu'il s'agit là d'une formule magique autosuffisante, une sorte de abracadabra relouqué au vernis biblico-spirituel. Mes amis, ne soyons pas naïfs. Dire « il est écrit », c'est en réalité à l'appeler à la force efficiente de Dieu. C'est l'invoquer, lui passer le relais, reconnaître notre incapacité à faire face devant la tentation ou l'épreuve. Avoir la foi de dire « il est écrit », c'est aussi proclamer devant l'adversaire que Dieu est le seul et l'unique sommet. C'est affirmer sa souveraineté, c'est dire que c'est devant lui seul que je me prosterne. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, nous lisons ceci. Au commencement, la parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, rien n'est venu à l'existence sans elle. Je peux donc dire que c'est cette parole qui m'a fait corps humain, âme humaine et esprit humain. Et que par conséquent, ces trois niveaux de ma pyramide étant son œuvre, c'est qu'à chacun de ces étages, cette parole demeure efficace et imparable. Alors, que Dieu règne, règne sur nos corps. Que sa puissance sanctifie nos âmes et que sa gloire très sacrée, resplendisse en nous, car il est écrit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Il y a aussi le livre qui avait été présenté dimanche par